Souvenirs d'égotisme, chapitre 3. 21 juin 1832. L'amour me donna en 1821 une vertu bien comique, la chasteté. Malgré mes efforts, en août 1821, messieurs Lucinge, Barreau et Poitevin, me trouvant soucieux, arrangèrent une délicieuse partie de filles. Barreau, à ce que j'ai reconnu depuis, est un des premiers talents de Paris pour ce genre de plaisir assez difficile. Une femme n'est femme pour lui qu'une fois, c'est la première. Il dépense 30 000 francs de ses 80 000 francs, et de ces 30 000 francs, au moins 20 000 en filles. Barreau arrangea donc une soirée avec Madame Petit, une de ses anciennes maîtresses, à laquelle, je crois, il venait de prêter de l'argent pour prendre un établissement rue du Cadran, au coin de la rue Montmartre, au 4e. Nous devions avoir Alexandrine, 6 mois après entretenue par les Anglais les plus riches, alors débutante depuis 2 mois. Nous trouvâmes sur les 8 heures du soir un salon charmant, quoiqu'au 4e étage, du vin de champagne frappé de glace, du punch chaud. Enfin parut Alexandrine, conduite par une femme de chambre chargée de la surveiller. Chargée par qui? Je l'ai oublié. Mais il fallait que ce fût une grande autorité que cette femme, car je vis sur le compte de la partie qu'on lui avait donné 20 francs. Alexandrine parut et surpassa toutes les attentes. C'était une fille élancée, de 17 à 18 ans, déjà formée, avec des yeux noirs, que, depuis, j'ai retrouvé dans le portrait de la duchesse d'Urbain par le Titien à la galerie de Florence. À la couleur des cheveux, près, Titien a fait son portrait. Elle était douce, point timide, assez gaie, décente. Les yeux de mes collègues devinrent comme égarés à cette vue. Lucinge lui offre un verre de champagne qu'elle refuse et disparaît avec elle. Madame Petit nous présente 2 autres filles pas mal. Nous lui disons qu'elle-même est plus jolie. Elle avait un pied admirable. Poitevin l'enleva. Après un intervalle effroyable, Lucinge revient tout pâle. « À vous, belle, honneur à l'arrivant » s'écria-t-on. « Je trouve Alexandrine sur un lit, un peu fatiguée, presque dans le costume et précisément dans la position de la duchesse d'Urbain du Titien. « Causons seulement pendant 10 minutes, » me dit-elle avec esprit. « Je suis un peu fatiguée, bavardons. Bientôt je retrouverai le feu de la jeunesse. » Elle était adorable. Je n'ai peut-être rien vu d'aussi joli. Il n'y avait point trop de libertinage, excepté dans les yeux qui peu à peu redevinrent pleins de folie, et, si l'on veut, de plaisir. Je la manquais parfaitement. Fiasco complet. J'eus recours à un dédommagement, elle s'y prêta. Ne sachant trop que faire, je voulus revenir à ce jeu de main qu'elle refusa. Elle parut étonnée, je lui dis quelques mots assez jolis pour ma position, et je sortis. À peine Barreau m'eut-il succédé que nous entendîmes des éclats de rire qui traversaient 3 pièces pour arriver jusqu'à nous. Tout à coup, Madame Petit donna congé aux autres filles, et Barreau nous amena Alexandrine dans le simple appareil, d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. « Mon admiration pour Belle, dit-il en éclatant de rire, va faire que je l'imiterai. Je viens me fortifier par du champagne. » L'éclat de rire dura 20 minutes. Poitevin se roulait sur le tapis. L'étonnement ingénu d'Alexandrine était impayable. C'était pour la première fois que la pauvre fille était manquée. Ces messieurs voulaient me persuader que je mourrais de honte et que c'était là le moment le plus malheureux de ma vie. J'étais étonnée et rien de plus. Je ne sais pourquoi l'idée de Mathilde m'avait saisie en entrant dans cette chambre dont Alexandrine faisait un si joli ornement. Enfin, pendant 10 années, je ne suis pas allée 3 fois chez les filles. Et la première fois, après la charmante Alexandrine, ce fut en octobre ou en novembre 1826, étant pour lors au désespoir. J'ai rencontré 10 fois Alexandrine dans le brillant équipage qu'elle eut un mois après, et toujours j'ai eu un regret. Enfin, au bout de 5 à 6 ans, elle a pris une figure grossière comme ses camarades. De ce moment, je passais pour babillant auprès des 3 compagnons de vie que le hasard m'avait donnés. Cette belle réputation se répandit dans le monde et, peu ou beaucoup, m'a duré jusqu'à ce que Madame Azur ait rendu compte de mes faits et gestes. Cette soirée augmenta beaucoup ma liaison avec Barrault, que j'aime encore et qui m'aime. C'est peut-être le seul Français dans le château duquel j'irai passer 15 jours avec plaisir. C'est le cœur le plus franc, le caractère le plus net, l'homme le moins spirituel et le moins instruit que je connaisse. Mais dans ces 2 talents, celui de gagner de l'argent sans jamais jouer à la bourse, et celui de lier connaissance avec une femme qu'il voit à la promenade ou au spectacle, il est sans égal, dans le dernier surtout. C'est que c'est une nécessité. Toute femme qui a eu des bontés pour lui devient comme un homme. Un soir, m'est-il de me parler de Madame Bignami, son amie. Elle me conta d'elle-même une histoire d'amour fort connue, puis ajouta « Jugez de son sort. Chaque soir, son amant, en sortant de chez elle, allait chez une fille. » Or, quand j'eus quitté Milan, je compris que cette phrase morale n'appartenait nullement à l'histoire de Madame Bignami, mais était un avertissement moral à mon usage. En effet, chaque soirée, après avoir accompagné Mathilde chez sa cousine, Madame Traversy, à laquelle j'avais refusé gauchement d'être présentée, j'allais finir la soirée chez la charmante et divine comtesse Cassera. Et, par une autre sottise, cousine germaine de celle que je fis avec Alexandrine, je refusais une fois d'être l'amant de cette jeune femme, la plus aimable peut-être que j'aie connue. Tout cela pour mériter, aux yeux de Dieu, que Mathilde m'aimât. Je refusais avec le même esprit et pour le même motif la célèbre Vigano, qui un jour, comme toute sa cour descendait l'escalier, et parmi les courtisans était cet homme d'esprit, le comte de Soro, laissa passer tout le monde pour me dire « Belle, on dit que vous êtes amoureux de moi. » « On se trompe, » répondis-je d'un grand sang-froid, sans même lui baiser la main. Cette action indigne, chez cette femme qui n'avait que de la tête, m'a valu une haine implacable. Elle ne me saluait plus quand, dans une de ces rues étroites de Milan, nous nous rencontrions tête à tête. Voilà 3 grandes sottises. Jamais je ne me pardonnerai la comtesse Cassera. Aujourd'hui, c'est la femme la plus sage et la plus respectée du pays. Chapitre 4. Voici une autre société. Contraste avec celle du chapitre précédent. En 1817, l'homme que j'ai le plus admiré à cause de ses écrits, le seul qui ait fait révolution chez moi, monsieur le comte de Tracy, vint me voir à l'hôtel d'Italie, place Favart. Jamais je n'ai été aussi surpris. J'adorais depuis 12 ans l'idéologie de cet homme qui sera célèbre un jour. On avait mis à sa porte un exemplaire de l'histoire de la peinture en Italie. Il passa 1 heure avec moi. Je l'admirais tant que probablement je fis fiasco par excès d'amour. Jamais je n'ai moins songé à avoir de l'esprit ou être agréable. J'approchais de cette vaste intelligence, je la contemplais, étonnée. Je lui demandais des lumières. D'ailleurs, en ce temps-là, je ne savais pas encore avoir de l'esprit. Cette improvisation d'un esprit tranquille ne m'est venue qu'en 1827. Monsieur d'Estutes de Tracy, pair de France, membre de l'Académie, était un petit vieillard, remarquablement bien fait et à tournure élégante et singulière. Il porte habituellement une visière verte sous prétexte qu'il est aveugle. Je l'avais vu recevoir à l'académie par monsieur de Ségur qui lui dit des sottises au nom du despotisme impérial. C'était en 1811, je crois. Quoique attaché à la cour, je fus profondément dégoûté. Nous allons tomber dans la barbarie militaire. Nous allons devenir des générales grosses, me disais-je. Ce général, que je voyais chez madame la comtesse Daru, était un des sabreurs les plus stupides de la garde impériale. C'est beaucoup dire. Il avait l'accent provençal et brûlait surtout de sabrer les Français, ennemis de l'homme qui lui donnait la pâture. Ce caractère est devenu ma bête noire, tellement que le soir de la bataille de la Moscova, voyant à quelques pas les restes de deux ou trois généraux de la garde, il m'échappa de dire « Ce sont des insolents de moins !» Propos qui faillit me perdre, et d'ailleurs inhumain. Monsieur de Tracy n'a jamais voulu permettre qu'on fît son portrait. Je trouve qu'il ressemble au pape Corsini, Clément, tel qu'on le voit à Sainte-Marie-Majeure dans la belle chapelle à gauche en entrant. Ses manières sont parfaites quand il n'est pas dominé par une abominable humeur noire. Je n'ai deviné ce caractère qu'en 1822. C'est un vieux Don Juan. Voir l'opéra de Mozart, Molière, etc. Il prend de l'humeur de tout. Par exemple, dans son salon, M. de Lafayette était un plus grand homme que lui, même en 1821. Ensuite, les Français n'ont pas apprécié l'idéologie et la logique. M. de Tracy n'a été appelé à l'Académie par ses petits rhéteurs musqués que comme auteur d'une bonne grammaire, et encore, dûment injurié par ce plat Ségur, père d'un fils encore plus plat, le Philippe, qui a écrit nos malheurs de Russie pour avoir un cordon de Louis XVIII. Cet infâme Philippe de Ségur me servira d'exemple pour le caractère que j'aborde le plus à Paris, le ministériel fidèle à l'honneur en tout, excepté les démarches décisives dans une vie. Dernièrement, ce Philippe a joué envers le ministre Casimir Perier, voir les débats, mai 1832, le rôle qui lui avait valu la faveur de ce Napoléon qu'il déserta si lâchement, et ensuite la faveur de Louis XVIII qui se complaisait dans ce genre de gens bas. Il comprenait parfaitement leur bassesse, la rappelait par des mots fins au moment où il faisait quelque chose de noble. Peut-être l'ami de Favra qui attendit la nouvelle de sa pendaison pour dire à un de ces gentilshommes « Faites-nous servir !» se sentait-il ce caractère. Il était bien homme à s'avouer qu'il était un infâme et à rire de son infamie. Je sens bien que le terme infâme est mal appliqué, mais cette bassesse à la Philippe Ségur a été ma bête noire. J'estime et j'aime 100 fois mieux un simple galérien, un simple assassin qui a eu un moment de faiblesse et qui d'ailleurs mourrait de faim habituellement. En 1828 ou 1826, le bon Philippe était occupé à faire un enfant à une veuve millionnaire qu'il avait séduite et qui a dû l'épouser, madame Gréful, veuve du pair de France. J'avais dîné quelquefois avec ce général Philippe de Ségur à la table de service de l'empereur. Alors, le Philippe ne parlait que de ses 13 blessures, car l'animal est brave. Il serait un héros en Russie, dans ces pays à demi-civilisés. En France, on commence à comprendre sa bassesse. Mesdames Garnett, rue du Faux numéro 12, voulait me mener chez son frère, leur voisin, numéro 14, je crois, ce à quoi je me suis toujours refusé à cause de l'historien de la campagne de Russie. Monsieur le comte de Ségur, grand maître des cérémonies à Saint-Cloud en 1811, quand j'y étais, mourait de chagrin de n'être pas duc. À ses yeux, c'était pis qu'un malheur, c'était une inconvenance. Toutes ses idées étaient naines, mais il en avait beaucoup et surtout. Il voyait chez tout le monde et partout de la grossièreté. Mais avec quelle grâce n'exprimait-il pas ce sentiment? J'aimais chez ce pauvre homme l'amour passionné que sa femme avait pour lui. Du reste, quand je lui parlais, il me semblait avoir affaire à un lilliputien. Je rencontrais M. de Ségur, grand maître des cérémonies de 1810 à 1814, chez les ministres de Napoléon. Je ne l'ai plus vu depuis la chute de ce grand homme, dont il fut une des faiblesses et un des malheurs. Même les dangeaux de la cour de l'empereur, et il y en avait beaucoup, par exemple mon ami le bon Martial Daru, même ces gens-là ne purent s'empêcher de rire du cérémonial inventé par M. le comte de Ségur pour le mariage de Napoléon avec Marie-Louise d'Autriche, et surtout pour la première entrevue. Quelque infatué que Napoléon fût de son nouvel uniforme de roi, il n'y put pas tenir. Il s'en moqua avec Duroc, qui me le dit. Je crois que rien ne fut exécuté de ce labyrinthe de petitesse. Si j'avais ici mes papiers de Paris, je joindrais ce programme aux présentes balivernes sur ma vie. C'est admirable à parcourir, on croit lire une mystification. Je soupire en 1832 en me disant « Voilà cependant jusqu'où la petite vanité parisienne avait fait tomber un Italien, Napoléon. » Où en étais-je? Mon Dieu, comme ceci est mal écrit! Monsieur le comte de Ségur était surtout sublime au Conseil d'État. Ce conseil était respectable. Ce n'était pas, en 1810, un assemblage de cuistres, de cousins, de Jacqueminots, de... et autres plus obscurs encore. 1832. Excepté les gens, ses ennemis avec folie, Napoléon avait réuni, dans son Conseil d'État, les 50 Français les moins bêtes. Il y avait des sections. Quelquefois, la section de la guerre, où j'étais apprenti sous l'admirable Gouvion Saint-Cyr, avait affaire à la section de l'intérieur, que M. de Ségur présidait quelquefois. Je ne sais comment, je crois, durant l'absence ou la maladie du vigoureux Regnault, de Saint-Jean d'Angély. 23 juin. Dans les affaires difficiles, par exemple celle de la levée des gardes d'honneur en Piémont, dont je fus un des petits rapporteurs, l'élégant, le parfait M. de Ségur, ne trouvant aucune idée, avançait son fauteuil. Mais c'était par un mouvement incroyable de comique, en le saisissant entre ses cuisses écartées. Après avoir ri de son impuissance, je me disais « Mais n'est-ce point moi qui ai tort ? C'est là le célèbre ambassadeur auprès de la grande Catherine qui vola sa plume à l'ambassadeur d'Angleterre. C'est l'historien de Guillaume II ou III, je ne me rappelle plus lequel, l'amant de la Lichtenau pour laquelle Benjamin Constant se battait. J'étais sujet à trop respecter dans ma jeunesse. Quand mon imagination s'emparait d'un homme, je restais stupide devant lui. J'adorais ses défauts. Mais le ridicule de M. de Ségur guidant Napoléon se trouva, à ce qu'il paraît, trop fort pour ma gullibilité. Du reste, au comte de Ségur, grand maître des cérémonies, en cela bien différent du Philippe, on eût pu demander tous les procédés délicats et même dans le genre femme s'avançant jusque à l'héroïsme. Il avait aussi des mots délicats et charmants, mais il ne fallait pas qu'il s'élevasse au-dessus de la taille lilliputienne de ses idées. J'ai eu le plus grand tort de ne pas cultiver cet aimable vieillard de 1821 à 1830. Je crois qu'il s'est éteint en même temps que sa respectable femme. Mais j'étais fou, mon horreur pour le vil allait jusqu'à la passion. Au lieu de m'en amuser, comme je fais aujourd'hui des actions de la cour de... Monsieur le comte de Ségur m'avait fait faire des compliments en 1817, à mon retour d'Angleterre, sur Rome, Naples et Florence, brochure que j'avais fait mettre à sa porte. Au fond du cœur, sous le rapport moral, j'ai toujours méprisé Paris. Pour lui plaire, il fallait être comme Monsieur de Ségur, le grand maître. Sous le rapport physique, Paris ne m'a jamais plu. Même vers 1803, je l'avais en horreur, comme n'ayant pas de montagnes autour de lui. Les montagnes de mon pays, le Dauphiné, témoins des mouvements passionnés de mon cœur pendant les 16 premières années de ma vie, m'ont donné là-dessus un bias, pli, terme anglais, dont jamais je ne pus revenir. Je n'ai commencé à estimer Paris que le 28 juillet 1830. Encore le jour des ordonnances, à 11 heures du soir, je me moquais du courage des Parisiens et de la résistance qu'on attendait d'eux, chez Monsieur le comte Réal. Je crois que cet homme si gai et son héroïque fille, Madame la baronne Lacuée, ne me l'ont pas encore pardonné. Aujourd'hui, j'estime Paris. J'avoue que, pour le courage, il doit être placé au premier rang, comme pour la cuisine, comme pour l'esprit. Mais il ne m'en séduit pas davantage pour cela. Il me semble qu'il y a toujours de la comédie dans sa vertu. Les jeunes gens nés à Paris de pères provinciaux et à la mâle énergie, qui ont eu celle de faire leur fortune, me semblent des êtres étiolés, attentifs seulement à l'apparence extérieure de leurs habits, au bon goût de leur chapeau gris, à la bonne tournure de leur cravate, comme messieurs Féburier, Viollet-le-Duc, etc. Je ne conçois pas un homme sans un peu de mâle énergie, de constance et de profondeur dans les idées, etc. Toute chose aussi rare à Paris que le ton grossier ou même dur. Mais il faut finir ici ce chapitre. Pour tâcher de ne pas mentir et de ne pas cacher mes fautes, je me suis imposé d'écrire ces souvenirs à 20 pages par séance, comme une lettre. Après mon départ, on imprimera sur le manuscrit original. Peut-être ainsi parviendrai-je à la véracité, mais aussi il faudra que je supplie le lecteur, peut-être né ce matin dans la maison voisine, de me pardonner de terribles digressions.